Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La haute cour militaire est pour les hommes en uniforme et secrète la cour de cassation pour les civils. Mais des fois, la haute cour connaît des infractions commises par des civils, les juges et les condamnent. C'est plus particulièrement dans le cadre du concours de plusieurs infractions, notamment les infractions de droit commun, les infractions purement militaires. Et les décisions de la haute cour sont inattaquables. Mais dans quel cas enregistre-t-on des limites ? Qui sont justiciables de la haute cour militaire ? Que dit la loi à ce sujet ? Droit et citoyenneté parlent des compétences de la haute cour militaire en droit congolais. Ce magazine est coordonné et présenté par Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous. Une des caractéristiques des juridictions militaires est la célérité dans l'instruction d'une affaire. La ponctualité est de rigueur lorsqu'il faut instruire devant la haute cour militaire, ce qui la distingue des juridictions civiles. Et pour nous en rendre compte, nous sommes dans la salle d'audience à la haute cour militaire, composée des juges dont le président, général-major Mutombo Katalayi, et du ministère public et général de brigade Likulia Bakoumi. La haute cour militaire instruit au premier et dernier degré depuis 2015 l'affaire du général Germain Katanga et consorts, aux arrêts depuis 2005. Il est 9h, l'audience commence par les honneurs de la police d'audience.
Et le groupe d'audience est repris.
Vient ensuite la lecture de l'extrait des rôles, en quelque sorte l'ordre du jour de l'audience par le greffier. Nous recevons à présent le magistrat Christophe Moussemé, substitut du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Il nous explique les compétences de la haute cour militaire selon le droit congolais.
La compétence de la haute cour militaire, il faut d'abord la situer dans la constitution, et principalement à l'article 156 de la constitution, qui stipule que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. Il faut combiner cette disposition avec la disposition du code de justice militaire, l'article 82, qui dit que la haute cour militaire connaît en premier et dernier ressort des infractions de toute nature commises par les personnes énumérées à l'article 120 de ce même code. Alors, lorsque vous allez à l'article 120 de ce code, il est dit ceci. Sont justiciables de la haute cour militaire les officiers généraux des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national de même rang. Le point B renseigne que les personnes justiciables cite également les personnes justiciables par état de la Cour suprême de justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Également, la haute cour militaire juge les magistrats militaires, membres de la haute cour militaire, de l'auditorat général des cours militaires, des cours militaires opérationnels et des auditorats militaires pour ces cours. Et enfin, suivant cet article 120, les membres de la haute cour militaire jugent les membres militaires des dites juridictions poursuivies pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. Voilà ce que je peux dire par rapport à la compétence personnelle de la haute cour militaire. Mais il faut renseigner, il faut signaler que le code de justice militaire est antérieur à la constitution de la République démocratique du Congo, parce que la constitution, en son article 6, par rapport à la compétence de la haute cour militaire, elle est limitée aux seuls membres des forces armées et de la police nationale congolaise. Ce qui entraîne un débat doctrinaire, parce que lorsque vous lisez le document réalisé par le professeur Nyabirungu Mwenesonga, Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, un débat se développe tout au long par rapport à la compétence des juridictions militaires. Et en résumé, beaucoup de gens estiment que les cours militaires, bien les juridictions militaires, doivent se limiter à ne juger que les militaires et les policiers. En résumé, ne doivent se limiter que à juger les semblables afin de respecter les principes sacro-saints développés par notre Constitution qui dit que nul ne peut être soustrait ou distrait de son juge naturel. Voilà le débat qui est soulevé et la position du professeur Nyabirungu ainsi que de beaucoup d'autres doctrinaires au niveau international et même au niveau des Nations Unies estiment que notre juridiction, notre justice devait évoluer et faire juger les civils uniquement par leurs semblables, les juridictions civiles.
À quel moment on arrive à juger, à déférer un civil devant une juridiction militaire?
En fait, le code de justice militaire de 2002, à l'article 120.b, stipule que les juridictions militaires, notamment la haute cour militaire, jugent les personnes justiciables par état de la Cour suprême de justice pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Mais cette disposition est contestée aujourd'hui lorsque on lit l'article 156 de la Constitution de 2006 qui dit que les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale. Et c'est pourquoi un débat houleux existe par rapport à cette compétence. Parce que lorsque vous lisez l'ouvrage ou bien les documents dont je viens de vous parler, « Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité », écrit par le professeur Nyabirungu, à la page 47 de ces documents, il dit ceci que les juridictions militaires sont considérées comme n'étant pas de nature à assurer un procès équitable au civil par manque de dépendance et d'impartialité. Le professeur Nyabirungu rappelle également que le comité des droits de l'homme, à la lumière de son observation générale numéro 13, a relevé l'incompatibilité de la compétence donnée aux tribunaux militaires pour juger des civils avec une administration de la justice équitable, impartiale et indépendante. Donc, au fait, les cours, les juridictions militaires continuent à se fonder sur le code de justice militaire de 2002, mais oubliant que la Constitution a évolué et aujourd'hui, il est demandé aux juridictions militaires d'évoluer pour que les droits des personnes soient respectés, pour que les juridictions militaires ne jugent que leurs semblables, conformément à l'article de la Constitution à laquelle je viens de faire allusion.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Christophe Moussemé, droit et citoyenneté aborde les compétences de la haute cour militaire en droit congolais. Est-ce que, en vous entendre parler, les juridictions militaires violent la loi?
C'est un débat doctrinaire qu'il faut arriver à dégager par des arrêts de principe, parce que il reste demeure évident que si, dans l'hypothèse où certains estiment que les juridictions militaires violent la loi, il faut se référer au saisir l'instance supérieure, notamment la Cour constitutionnelle, qui stipule donc notamment la Cour constitutionnelle, parce que la Cour de cassation, qui demeure à ce niveau compétent pour connaître, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, qui demeure habilité à recevoir des pourvois contre les décisions de la haute cour militaire. Alors, lorsque vous lisez la disposition qui donne le pouvoir à toute personne jugée, par les juridictions militaires, de saisir l'instance supérieure afin de juger de la légalité des décisions de la haute cour militaire. Mais donc, lorsque je vais retrouver la disposition, je vais vous la donner.
Christophe, lorsque un civil est attrapé ou est arrêté avec des effets militaires, notamment l'uniforme militaire ou une arme, ipso facto, il devient justiciable des juridictions militaires. Il cesse d'être injustifiable des juridictions civiles.
C'est cette interprétation que font les juridictions militaires, mais la doctrine s'oppose à cette position des juridictions militaires parce que cette tendance-là va faire juger beaucoup d'infractions de droit commun ou bien beaucoup de personnes justiciables des juridictions civiles devant les juridictions militaires. Parce que une arme, utiliser une arme de guerre, une arme, ça demeure, c'est également une infraction de droit commun. Parce que quelqu'un, un civil, peut utiliser un fusil, un revolver pour abattre quelqu'un. Et c'est là, bien sûr, aujourd'hui, vous serez justiciable des juridictions militaires. Mais l'idéal, il demeure, cette personne demeure un civil et il devait être jugé par les juridictions civiles. Parce qu'il faut rester dans l'esprit de la création des juridictions militaires, sans que ça ne soit des juridictions d'exception. Ce sont des juridictions spécialisées, uniquement pour juger les personnes qui ont la même moralité que ces juges. Et il s'agit ici de militaires et de policiers. Parce qu'on estime que ces personnes-là, compte tenu de leur mode de vue, de ce qu'ils sont, ils doivent être jugés par leur père. Voilà pourquoi ces personnes-là, on les a soustraits des juridictions civiles pour qu'ils soient jugés par leurs semblables. Mais par rapport aux civils, l'opinion et même les instruments des Nations Unies, nombreux instruments des Nations Unies, recommandent que les civils soient jugés par leur père civil.
Place maintenant aux explications des avocats des prévenus sur cette procédure devant la haute cour militaire. Nous recevons Maître Jean-Marie Elley. Il nous explique la procédure et plus particulièrement celle dite de complémentarité dans l'affaire qui oppose l'auditeur général des FRDC au général Germain Katanga. Maître Jean-Marie Elley.
D'abord, dans cette affaire, nous sommes dans la procédure de complémentarité avec la Cour pénale internationale. Le Congo a signé le statut de Rome qui réprime les crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l'humanité. Étant donné qu'il y a eu des cas en Ituri où il y a eu des crimes de guerre et que notre justice n'était pas capable en ce moment-là d'examiner ce genre d'affaires eu égard aux problèmes ethniques et la fragilité post-conflit, vous vous rappellerez bien de la situation 1 plus 4, le gouvernement congolais étant membre de la Cour pénale internationale avait déféré l'ensemble de la situation en Ituri devant la Cour. Vous voyez ? Et la Cour, la procureure a fait...
Donc la CPI.
La CPI. Et la CPI a fait ses enquêtes, elle a envoyé discrètement ses enquêteurs ici et on a retenu les charges contre nos clients et qui se trouvaient à Makala et en Ituri. Ils ont été déférés maintenant devant la Cour pénale internationale. C'est pour cela que vous connaissez l'affaire Thomas Lubanga, Bosco Tanganda et autres, et Ngujolo qui était. Maintenant, lorsque il était question que les clients ont accepté de venir purger leur peine ici, puisqu'il y a complémentarité, la juridiction militaire, le procureur militaire de la haute cour militaire a décidé qu'il y avait des infractions complémentaires, en dehors des infractions pour lesquelles les gens ont été jugés. Vous voyez un peu la procédure ? Alors, ils ont réuni des preuves, soi-disant, et ils ont maintenant déféré nos clients devant la haute cour militaire dans le cadre de la complémentarité entre la Cour pénale internationale et les juridictions internes congolaises, parce que nous avons signé et nous avons déféré librement le cas de la situation en Ituri devant cette cour. La Cour pénale internationale fait son travail. Maintenant, les juridictions congolaises sont... Et on reproche à nos clients, entre autres, par exemple, la mort des casques bleus,
les 9 casques bleus en 2005.
Voilà, c'est pour cela, puisque cette infraction-là n'était pas reprise par la Cour pénale internationale, nous sommes en train de l'examiner.
Donc ici, l'instruction porte uniquement sur cette infraction.
Pas uniquement, parce qu'il
y a d'autres infractions.
Oui. Il y a enrôlement d'enfants, vous voyez, il y a des...
Mouvements insurrectionnels.
Mouvements insurrectionnels, et puis différents actes qui ont eu lieu, des violations des droits de l'homme, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui n'ont pas été examinés par le procureur devant la CPI. C'est pour cela, nous sommes là.
Et donc, c'est dans le cadre d'une procédure de complémentarité, c'est
voilà,
ça.
Voilà, la complémentarité, l'État congolais, bien qu'ayant déféré la situation, l'ensemble de la situation en Ituri là-bas, mais maintenant que nous avons une justice et que notre code pénal militaire prévoit que les infractions des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sont examinées par la haute cour militaire. Donc, vous soyez civil ou vous soyez militaire, puisque ces infractions sont de la compétence uniquement des juridictions militaires congolaises. Donc, nous sommes maintenant en train d'examiner ça. Et je pense qu'il y aura, même dans le cas de casque bleu, nous irons certainement en Ituri pour confronter un peu les témoins, parce que jusqu'à présent, les témoins ne sont pas là. Hein? Vous voyez donc... Mais la MONUSCO est quand même concernée. On débat les rapports de la MONUSCO sur la question. Et puis la MONUSCO a travaillé avec le procureur militaire essayer un peu de consolider des éléments avant la fixation du dossier au tribunal. Mais nous disons que nos clients ont là ce que nous appelons un principe général consacré par le code pénal congolais et par le code pénal militaire et puis par le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la présomption d'innocence.
Mais que vient faire la lettre de Samba Caputo dans cette affaire?
Oui, mais il y a un problème, c'est quoi? Nos clients, quand on a fait les enquêtes, il y avait la pacification de Vitouri et il y a eu dialogue. C'était dans la rébellion. Mais maintenant, compte tenu du fait que l'armée nationale n'arrivait pas à gagner la guerre, et c'est la situation au nord Kivu, au sud Kivu, même pour le moment, on avait estimé qu'il fallait négocier. Et Samba Caputo, à l'époque, conseil spécial du chef d'État en matière de sécurité, dialoguait. Et il y a eu une commission de pacification de Vitouri et de l'ensemble de la situation là-bas. Et nos clients dans la commission, ils travaillaient, ils étaient des mouvements résistants face à l'invasion des Ougandais, vous voyez, et des Rwandais. Alors maintenant, ils estiment que, compte tenu qu'on a travaillé ensemble, on a posé des actes, nous avons aidé les institutions, nous n'avons pas fait des crimes de guerre, mais quand l'adversaire vient et que vous résistez, vous devez vous laisser tuer. C'est ça le problème.
Une façon de légitimer ce qu'il faisait à l'époque.
Non, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Quand il y a la guerre, quand nous sommes dans une procédure, il y a une accusation. Nous sommes de la défense et c'est la haute cour, le tribunal, qui nous départage à travers un jugement. À partir du moment où il n'y a pas encore un arrêt de la haute cour militaire. En matière de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, pour qu'il n'y ait pas l'impunité, lorsque les juridictions nationales qui doivent poursuivre les crimes de guerre contre l'humanité ne font pas leur travail, la CPI est capable de faire les enquêtes et d'arrêter quelqu'un, même s'il est dignitaire, s'il est en voyage. C'est-à-dire, on dit que en cette matière-là, ces crimes-là sont imprescriptibles. Si vous les avez commis aujourd'hui, même comme on a fait avec les criminels nazis, même après 10 ans, 15 ans, vous êtes ministre, vous êtes député, il y a ce qu'on appelle le principe du dépôt de défaut de pertinence de qualité officielle. Vous êtes sénateur, là-bas, il n'y a pas de privilège. Quand vous êtes en voyage et que la CPI a constaté que vous avez commis les infractions ici, mais le procureur militaire ne vous a pas poursuivi, la CPI vous prend. C'est-à-dire que c'est complémentaire. Ou c'est la juridiction nationale, ok, ça va, on ne vous envoie pas à la CPI.
Mais que vient faire de la justice militaire dans une affaire qui était déjà jugée au niveau de la CPI
Jean-Marc Katanga? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un principe, vous avez raison de poser le problème. Dans le statut de Rome, il y a même un droit pénal interne, il y a ce qu'on appelle nobis indem. C'est-à-dire que si, pour certains faits, vous avez déjà été jugé, la juridiction nationale ne peut plus vous juger. Vous voyez, c'est dans le cadre de la complémentarité. Mais ici, nous sommes dans une situation où il y a des faits nouveaux. Bien que c'est l'ensemble de la situation en Ituri, le procureur militaire a estimé que pour les infractions pour lesquelles vous avez été poursuivi devant la CPI, nous ne pouvons plus revenir. Mais bien qu'étant les infractions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, mais ici, il s'agit des crimes de guerre qui se sont produits en d'autres lieux que les crimes de guerre qui ont fait l'objet des jugements devant la CPI. Vous voyez, par conséquent, puisqu'il y a la complémentarité, si vous ne jugez pas et que le tribunal, la Cour pénale internationale, le procureur se rend compte que vous n'avez pas fait le travail, ne serons pas surpris qu'un dignitaire congolais ait en voyage, officiel, qu'il soit sénateur, qu'il soit président du Sénat, qu'il soit gouverneur, qu'il se retrouve en Europe ou dans une réunion parlementaire quelque part, on l'arrête.
Mais ces faits nouveaux, quels sont ces faits nouveaux?
Mais les faits nouveaux, c'est le procureur qui apprécie, qui se sont commis dans certains lieux déterminés et qui sont dans l'acte d'accusation.
Il les a cité.
Oui, le cas par exemple des gens de certains tribus, les Ndo contre et les Emma, c'est toujours ce problème-là, comme c'est ce qui s'est passé au Rwanda, les Hutus contre les Tutsis. Il y a un problème un peu de vouloir vivre collectif, conflit entre tribus et tout ça.
Donc, il y a aussi le cas de viol.
Oui, effectivement, il y a aussi beaucoup de cas de viol qui sont dans l'acte d'accusation du procureur de la haute cour militaire. C'est ce qui fait l'objet de nos différentes audiences devant la cour.
C'est depuis 14 ans que ces gens, vos clients, sont arrêtés.
Justement, c'est là où nous ne sommes pas d'accord, parce qu'on estime que même devant les instruments internationaux ratifiés par le Congo, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il est dit que lorsque quelqu'un est accusé, on lui signifie les faits qui lui sont reprochés, il doit réunir ses moyens de dépense et il doit être jugé dans les délais les plus raisonnables et les plus rapidement possibles pour qu'il connaisse son sort. Vous voyez des gens qui sont mariés, parfois ils ont la présomption d'innocence, 14 ans, 15 ans, on a détruit des ménages. ménage. Ils étaient des chefs de famille, vous voyez. C'est pour cela.
Et là, ils encourent quelle peine lorsqu'ils ont déjà fait 14 ans?
Non, non, la peine, ils peuvent avoir l'acquittement. Ça dépend, mais comme les crimes sont imprescriptibles, c'est ça le problème, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai. Je vous dis qu'en matière, il faut éviter, nous faisons ce rôle pédagogique en tant que membre de la coalition de l'ONG pour la Cour pénale internationale, que quand vous avez une parcelle d'autorité, évitez de faire l'arbitraire quelque part, parce que quand vous avez tué, vous avez séquestré les gens, ça passe pas, c'est imprescriptible. Vous pouvez être au cours d'une conférence internationale, vous pouvez être au cours d'un voyage, on vous prend, parce que le procureur de la CPI fait ses enquêtes de manière indépendante et c'est secrète, parfois le mandat est secret. Vous pouvez vous retrouver comme ça là, à Bruxelles, vous vous rappelez à l'époque, on a arrêté Jean-Pierre Bemba, il était en voyage. Donc, on peut vous prendre à tout moment, vous arrivez ici en Ouganda, on vous prend, vous arrivez au Maroc, on vous prend.
Là maintenant, vous plaidez pour l'acquittement pur et simple.
Non, nous sommes en train de l'examiner, mais le problème c'est lequel, nous sommes en train de faire l'instruction. Et nous, l'idéal pour nous, en tant qu'avocat de la défense, c'est que notre client soit acquitté. Hein? Parce qu'ils ont collaboré avec le gouvernement. Ils étaient dans la rébellion, certes. Mais comme c'était même pas la rébellion, mais ils étaient des résistants. Les étrangers, les Ougandais, vous vous rappelez, ils ont occupé une partie du Congo. Est-ce qu'ils devaient se livrer? C'est pour ça qu'ils se sont organisés en force d'autodéfense. C'est ça un peu notre argumentation. Et étant en force d'autodéfense, ils ont maintenant collaboré avec le commandement militaire. C'est-à-dire que vous agissez ensemble. Bon, s'ils sont jugés, alors on va juger aussi des forces armées. Or, que vous savez, en matière de guerre, quand on défend, c'est pour tuer. Hein? Et en droit humanitaire des conflits armés, c'est tout à fait normal. Hein? Que quand un adversaire vient là, quand vous le tuez, ce n'est pas une infraction.
Qui sont justiciables devant la haute cour militaire? Comment procède-t-on également devant la cour militaire? Cas de l'affaire des présumés membres de la milice Kamouna-Nsapu, avec leur conseil, Maître Bernard Tshitwakadi.
Devant la haute cour militaire, quand elle siège en appel, il faudrait d'abord que les personnes soient condamnées au premier degré, soient acquittées au premier degré ou condamnées partiellement au premier degré. Et ces gens, quand ils relèvent appel, l'appel est formé à la juridiction qui a rendu le jugement. C'est-à-dire au tribunal de garnison. Ça dépend de la province dans laquelle on se trouve. Mais comme ici à Kinshasa, il y a plusieurs tribunaux de garnison, notamment Matete, Gombe, Ngili, Ngaliema. Alors, dès qu'il y a un acte d'appel, le greffier divisionnaire du tribunal de garnison est obligé de porter les pièces et transmettre le dossier en l'état devant la juridiction d'appel, en l'occurrence à la cour militaire. Alors, la cour militaire, après avoir réceptionné, le greffier principal de la cour propose au président de prendre l'ordonnance de fixation. Et le président prend l'ordonnance, il fixe la cause et il dit que cette cause dont l'une ou plusieurs personnes sont en appel doit passer à l'audience publique de telle date et il doit indiquer aussi les lieux où doit se passer cette audience. Et après cela, le greffier ou l'huissier de la cour militaire doit aller signifier la citation à comparaître à tous les prévenus, les parties civiles, s'il y en avait. Dès que cela est fait, pour que vous compreniez et que la population comprenne, ce n'est pas la citation à comparaître qui saisit la cour militaire quand il s'agit d'appel, mais plutôt l'acte d'appel. Dès qu'il y a l'acte d'appel, là, la cour doit se déclarer déjà saisie.
Pourquoi l'affaire Kamouna Nsapu va à la cour militaire au lieu d'aller à la haute cour?
Ok, parce que la loi ou le code judiciaire militaire prévoit que tous les jugements rendus au premier degré par les tribunaux de garnison sont connus en appel que par les cours militaires. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aller devant la haute cour militaire. On peut aller devant la haute cour que si l'arrêt au premier degré est rendu par la cour militaire. En ce moment-là, la partie qui veut aller en appel doit aller former l'appel à la haute cour militaire qui est unique pour toute la RDC.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Les compétences de la haute cour militaire en droit congolais. Droit et citoyenneté poursuit la thématique, cette fois-ci avec un autre exemple, l'affaire de meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre hospitalier Vidjana, dont les avocats saluent la procédure et expliquent le dernier degré de la haute cour militaire. Maître Peter Ngomo.
Effectivement, c'est sur base d'une ordonnance, loi numéro 78-001 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, que l'auditorat général, saisi de l'incident qui s'est passé au niveau de l'hôpital Vidjana, a préféré déférer les ministres provinciaux chargés de l'intérieur devant la haute cour militaire en procédure de flagrance, afin que celle-ci puisse statuer sur ce cas-là. Parce que vous vous souvenez très bien également la réaction de la population à travers ces crimes odieux et surtout la rapidité avec laquelle cet incident s'est passé. Donc c'est sur base de cette loi-là que la haute cour militaire a eu à se saisir des cas de Dodi et a ouvert le procès.
Et doit-on dire que cette procédure a été menée à bon port avec diligence?
Bon, effectivement, ça dépend des cas, mais est-il que la première des choses, c'est que quand même, le procès a été ouvert le même jour. Bon, vous savez également que les droits de la défense sont garantis par la Constitution. Et le juge ne peut pas violer ou passer outre certains moyens que la défense a soulevés, n'est-ce pas? Par exemple, vous voyez que la composition a même été récusée et autres, mais le juge devait statuer sur ces cas-là, n'est-ce pas? Ce sont des incidents de parcours, mais le juge ne pouvait pas escamoter et dire non, voilà, on n'est pas là, on est en flagrance. Non, mais le juge a voulu bien dire les droits, c'est-à-dire bien faire les choses, bien que en principe, parce que même la loi dit que les témoins de l'événement devraient normalement être là au tribunal pour donner témoignage.
Il y a eu beaucoup de témoins, beaucoup de renseignants,
voilà,
à charge.
Non, oui, effectivement, c'est les prescrits de la loi qui veut ainsi que les témoins puissent accompagner pour témoigner. En fait, c'est possible, pouvait se terminer en un jour. Mais bon, les avocats sont ceux qui sont. Il y a eu des moyens qui ont été soulevés auxquels les juges. Ah, mais oui, mais les juges ne pouvaient pas, comme j'ai dit, escamoter cela. Les juges ne devaient que faire droit à cela. Et donc, ça a pris les jours que ça a pris. Mais au final, le résultat est là. Je pense qu'en moins de deux mois, on a clôturé rapidement. Mais aujourd'hui, le résultat est là. On a déjà exécuté la sentence, donc là que l'essentiel qui est fait, c'est fait. Mais je tenais également à rappeler que ça fait quand même longtemps depuis qu'on a vécu un tel événement. De tout le temps où, par exemple, le président Joseph Kabila était au pouvoir, on n'a jamais vu un ministre être condamné. Même pour des cas de violence flagrante, on a connu des cas. Malheureusement, il n'y a jamais eu de procès. Mais aujourd'hui, quand même, nous devons saluer ce verdict-là qui devrait mettre tout le monde sur le pas en se disant qu'on ne sait jamais à qui sera le dernier, le prochain tour.
L'appel est exclu devant la haute cour militaire.
Effectivement, oui. Il n'est que la possibilité de se pourvoir en cassation. Or, la cassation, on n'examine pas les fonds de l'affaire. C'est juste la forme, n'est-ce pas? Là également, est-ce qu'il y a eu la forme qui a été viciée ou pas? Parce que si la forme a été viciée, à ce moment-là, la cour de cassation va examiner.
Bon, ici, il ne s'agit pas d'appel. Bien que toute personne a droit à la double degré de juridiction, mais le cas sous-examen, mais il s'agit peut-être, ses avocats, je ne suis pas son avocat, ils peuvent envisager d'aller en pourvoi en cassation. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les juges de cassation, n'est-ce pas, n'est pas les juges de fond. Ce sont les juges de forme, en quelque sorte, c'est-à-dire s'il y a une illégalité de l'ordre de la procédure. À ce moment-là, on doit renvoyer à la même juridiction, mais cette fois-ci, autrement composée, je pense, c'est conformément à l'article 155 du Code d'organisation et de compétences judiciaires.
Donc, à la haute cour, on est jugé en premier et dernier degré.
Oui, oui. Donc, la haute cour militaire a été saisie en premier et en dernier ressort. Et ces arrêts, n'est-ce pas, en principe, ne sont pas susceptibles de recours. Mais avec la loi portant organisation et fonctionnement de compétences judiciaires, on a dit que ces décisions peuvent être attaquées à la Cour de cassation.
Nous parlons des compétences de la haute cour militaire selon le droit congolais. En évoquant quelques exemples de procès, nous revenons maintenant au magistrat Christophe Moussemé avant de conclure.
Oui, justement, c'est comme je vous l'ai dit en introduction, la constitution définit clairement les compétences des juridictions civiles et militaires. et principalement la haute cour militaire a une compétence personnelle, étant donné que c'est cette compétence reconnue aux juridictions militaires par la Constitution qui stipule que les juridictions militaires, elles jugent les militaires et les policiers, article 156 de notre Constitution. Et donc, conformément à la Constitution, la compétence des juridictions militaires, notamment de la haute cour militaire, est liée aux seuls membres des forces armées et de la police nationale.
Droit et citoyenneté d'aujourd'hui est terminé. Nous avons parlé des compétences de la haute cour militaire en droit congolais. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de rester toujours à l'écoute de nos programmes sur la fréquence de la paix.